seul truc sur quoi j'étais focus, c'était il faut doubler notre chiffre d'affaires mensuel. Il faut doubler notre chiffre d'affaires mensuel. Et je le mettais à 8 mois quand au final, on n'en mettait plus que 6 pour le doubler. Mais j'étais vraiment focus là-dessus et non pas sur de la levée de fonds. J'étais pas à la course à la levée de fonds. Et aussi, il y a deux typologies, je pense, d'entrepreneurs. Il y a des gens qui veulent pas avoir de soucis dans leur vie et se dormir sur leurs deux oreilles. Et d'autres qui veulent stresser et faire donc la course à la levée de fonds.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 98e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 2 millions de dollars de publicité Facebook par mois, G7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez en savoir plus sur la publicité Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. Aujourd'hui, comme très souvent sur Hypercroissance, on parle avec un entrepreneur qui a bâti une entreprise technologique de manière très rapide. Maintenant, plus souvent qu'autrement, ces entreprises ont eu à lever du capital externe pour grandir rapidement et se doivent de rouler avec un bail négatif pendant plusieurs années avant de peut-être trouver de la rentabilité. La question maintenant à se poser est la suivante. Est-ce possible de bâtir un SaaS, Software as a Service, tout en restant pleinement profitable? Eh bien, je vais laisser Alain Benguigui, fondateur de la plateforme Casper, vous répondre aujourd'hui. En quelques années seulement, il a bâti une entreprise qui génère plus de 200 000 euros par mois et qui est également implantée dans plusieurs pays en Europe. Il a atteint cette croissance tout en étant pleinement profitable. D'ailleurs, si vous êtes en vente et vous aimeriez avoir plus d'infos sur vos prospects, je vous invite fortement à considérer Casper. Sans plus attendre, ma discussion avec Alain Benguigui. Alain Benguigui, tu es le président et fondateur de l'entreprise technologique Casper qui permet à ses utilisateurs d'obtenir en quelques clics les informations d'un potentiel prospect sur LinkedIn. Lancé il y a quelques années seulement, ton entreprise a déjà atteint près de 200 000 euros par mois en revenus récurrents et ce sans quasiment aucun financement externe. Alain Benguigui, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci à toi Antoine de me laisser l'opportunité d'expliquer voilà, là où on est arrivé et comment on est arrivé. Si ça peut aider quelques internautes, ce serait top.
Merveilleux. Puis Alain, l'objectif de la discussion aujourd'hui, ça va être d'analyser si oui ou non, on peut dominer avec une entreprise technologique sans financement externe. Mais avant de rentrer dans le vif de la conversation, peux-tu partager à notre audience aujourd'hui comment Casper s'est créé à la base?
Oui, bien sûr. Alors, faut savoir que... Moi, pour mon petit parcours, je suis issu des mathématiques appliquées à analyse de données. Et j'ai créé une première boîte qui s'appelait ShortTouch à la suite de mes études, qui analysait les interactions sur les réseaux sociaux et qui permettait de faire voilà des meilleurs chemins entre deux personnes ou entre une personne et une entité. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné puisqu'on a construit plus une technologie qu'un produit à vendre. Et donc, en fin de vie, j'ai décidé de pivoter et il y a un de mes employés qui m'a bien soutenu, qui est aujourd'hui cofondateur de Casper, mais qui m'a bien soutenu, avec lequel en fin de vie on a créé donc un produit qui s'intégrait sur Gmail et qui rajoutait une petite barre de recherche et qui permettait de faire de l'autocomplétion, c'est-à-dire d'entrer le nom d'une personne que je ne connaissais pas, mais que Casper avait dans sa base de données et permettait de lui envoyer directement un email. Et on a vu un attrait fort en fait pour cet outil en fin de vie de ShortTouch et on a décidé donc de créer à deux cette nouvelle boîte qui s'appelle Casper et qui aujourd'hui fonctionne assez bien et donc je suis très fier.
Ouais, félicitations, je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est assez exceptionnel d'aller à la vitesse que tu es allé sans vraiment la vision typique traditionnelle que les entreprises en SaaS, que les entreprises en technologie vont prendre. Maintenant Alain, j'aimerais revenir un petit peu dans le passé. Peux-tu nous donner un peu un ordre de temps dans tout ça? Donc, c'est en quelle année que tu as lancé ta première organisation? C'est combien de temps que ça t'a pris avant de réaliser que finalement, peut-être que ça allait pas être l'organisation que tu allais mener pendant quelques années?
Alors, j'ai commencé, c'était fin d'année 2015. a créé Short Touch. Donc c'était plus ou moins tout au début des années de l'année des algos d'analyse de données sur les basés sur les réseaux sociaux, sur des données à la fois semi-privées ou publiques. Et j'ai donc travaillé quand même un bon moment, donc je dirais peut-être un an seul avant d'avoir un associé, une associée qui m'est rejoint sur le projet, qui était plus du côté business, avec lequel on a essayé de construire des produits. Donc on était uniquement sur de la subvention, sur de la subvention BPI à l'époque. On se payait pas, on avait très peu de frais et on optimisait tout ça en prenant donc des stagiaires en développement qui par la suite on a embauché, mais au début c'était des stagiaires. Et on a essayé donc de construire un produit, et c'est vite arrivé en 3-4 produits, parce que l'idée est venue d'un simple constat. C'était que notre technologie pouvait fonctionner dans plusieurs domaines, que ce soit la recommandation, puisqu'on pouvait trouver les meilleurs intermédiaires, meilleures chaînes d'intermédiaires entre deux personnes, ou sur de la recommandation de produits ou social, en disant bah, j'ai mon meilleur ami qui aime cette destination ou ce produit-là, il y a de fortes chances qu'on ait les mêmes appétences dans un réseau proche d'amis. Et donc il y avait pas mal de possibilités de produits, et c'est ce qui nous a perdu au final, c'est qu'on a testé plusieurs produits sans aller au bout des choses, sans connaître le besoin du marché ou avoir une vraie problématique. Et donc ça a duré, donc je dirais qu'en 2016 mon ex-associé m'a rejoint, et on a dû travailler peut-être un an et demi avant d'être incubé par et accéléré par vente privée sur un produit social. Social, on a été accéléré pendant 9 mois, sur lequel on a essayé de développer pas mal de produits. Et malheureusement, je dirais que c'était plus un, on avait la tête dans le guidon. On était jeunes. J'étais jeune. J'avais une attirance pour le développement plus que pour un produit et un besoin du marché. Ce qui fait qu'on a la tête dans le guidon et qu'on n'ouvre pas les yeux et se dire bah, comment est-ce que vraiment je vais monétiser tout ça? C'est bien beau, tout le monde aime ma technologie, mais ou les produits que je suis capable de faire, mais à qui je le vends? Comment je le vends? Est-ce qu'il y a vraiment un besoin? Est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça? Et c'est ce qui nous a un peu perdu. Donc en 2018, c'est à ce moment-là qu'on a fait le pivot et qu'on a créé donc les prémices de Casper. Donc ça devait être en mars 2018. Le laps de temps, on a quand même travaillé 2 ans sans gagner d'argent, uniquement basé sur des subventions. On avait 2 employés et 2 stagiaires, donc on était un total de 6 personnes. C'était une petite équipe, et ça m'a beaucoup appris de par les erreurs. Et il vaut mieux construire un produit qui fonctionne et qu'on est capable de vendre que d'aller la tête dans le guidon dans du développement technique, et qui demande beaucoup de ressources, hein. Développement technique, c'est un salaire à l'année d'un développeur, et d'un bon développeur, ça va être 60 000 euros. Donc, et avec un développeur, on ne crée pas l'application qui va révolutionner le monde. Donc, on est obligé de le faire brique par brique, prioriser les choses, et c'est ce que j'avais pas compris lors de ma première boîte, et ce que j'ai plus compris avec Casper.
On va parler maintenant un petit peu de Casper, parce que c'est assez intéressant ce que tu viens de dire. Donc, 2 ans que tu as travaillé sur peut-être un produit qui n'aura pas dominé, pris autant de parts de marché que tu l'aurais espéré, mais tout de même des apprentissages qui sont, j'imagine, essentiels pour par la suite être capable d'amener Casper à un autre niveau. Parle-nous par la suite de ces discussions-là. Parle-nous des anecdotes, des coulisses un peu, de la réflexion de pivoter l'organisation. Il y a toujours des anecdotes croustillantes qui sortent de ça. Peux-tu nous dire qu'est-ce qui s'est déroulé, comment ça s'est fait, quelles ont été les discussions avec ton partenaire?
Alors, c'est très très intéressant. Quand c'était la fin de vie de la première boîte qui s'appelait Short Touch, avec mon ex-associé, bah on gagnait pas d'argent, on avait chacun des besoins à gauche à droite, et elle a voulu quitter l'aventure, je pense pour le mieux, puisqu'elle s'est épanouie, je pense, plus dans son nouveau métier que en travaillant dans l'ancienne boîte. Et donc on se retrouve sans argent, avec une associée qui quitte le navire. On ne sait pas quoi faire. Honnêtement, on est là, on a 3 mois. Je me rappelle très bien, c'était mi-février 2018. 3 mois de cash devant. On avait 2 stagiaires de 6 mois, 2 CDI, 2 CDI à payer. On a vraiment 3 mois de cash devant nous. Et je dois annoncer à l'équipe que
Juste pour être pour le mentionner à l'audience aujourd'hui, parce qu'il y a des gens au Canada qui nous écoutent, CDI veut dire contrat à durée indéterminée. C'est bien ce qu'on veut dire?
exactement.
Merveilleux, je te laisse continuer.
Donc deux full-time positions qui étaient dessus. Et en France, les contrats, on peut pas se séparer d'un contrat comme ça, c'est compliqué. Donc vraiment, on est engagé avec la personne. Et à 6, quand on a tout vécu comme ça, c'est plus une famille que de simples noms sur des contrats. C'est des gens avec qui on se réveille le matin, qu'on va pour travailler. Donc vraiment, émotionnellement, quand on doit annoncer à son équipe que il nous reste 3 mois de cash et qu'ils doivent trouver un autre travail et que ce temps-là, et qu'une associée part, c'est un peu la fin du monde. Le monde s'écroule. Je me rappelle encore quand je leur ai annoncé, je pense qu'on a chacun lâché sa petite larme pendant cette réunion. Et donc mon associé d'aujourd'hui, Omar, qui était un employé de l'ancienne boîte, m'a dit écoute Alan, moi je crois qu'on est capable de faire pas mal de choses. On a des belles bases techniques qu'on a déjà créées. Écoute, si on n'a pas d'argent, je serai capable moi de travailler en extérieur, de pas être payé, travailler en extérieur pour qu'on puisse continuer à avancer sur le projet, ça me dérangerait pas. Il y en a un autre qui m'a dit écoute, moi j'ai une possibilité d'aller dans une autre boîte, donc de la quitter. Et donc quand Omar m'a dit ça, déjà ça m'a beaucoup beaucoup ému et je me suis dit ok, on a 3 mois de cash, on est capable peut-être de rebondir, essayons des produits. Et je me rappelle qu'on a sorti 2 ou 3 produits en 3 mois. Il y avait les deux CDI, il y en a un qui est parti directement fin février, qui a coupé les coûts, et donc ça nous a permis de pas avoir 3 mois de cash, mais 4 ou 4,5. Et on s'est dit, donc 2 stagiaires en développement informatique et Omar qui était en développement informatique, on a fait 3 produits suite à ça. Et celui qui a le plus marché, donc vraiment, c'est vraiment une période vraiment intense. On se réveillait le matin et on n'avait pas l'attrait de dire on va vendre. On avait l'attrait de dire on est dos au mur et qu'est-ce qu'on va faire. Et au final, les 2 stagiaires ont pu finir leur stage complètement chez ShortTouch, donc on n'a pas mis fin au contrat et on a pu les payer jusqu'au bout. Et avec mon associé d'aujourd'hui, Omar, on a créé le produit qu'on a lancé. On a eu pas mal de traction. Donc vraiment, c'était un plugin qui cherchait des emails et qui s'intégrait sur Gmail. On faisait, il me semble, comme 200 inscrits par jour ou 300 inscrits par jour. Le produit était gratuit. Tout a été lancé via une vidéo d'un ami à moi qui est passé dans ce podcast, Jérémy Bendayan, qui se dit bonjour, qui a lancé une vidéo donc sur LinkedIn qui a explosé tous les compteurs. Je crois qu'en une journée on a fait 1000 ou 1500 inscrits dedans. C'est même pas si le serveur allait tenir à l'époque. On a eu plein de petites anecdotes comme ça et on a compris qu'il y avait une traction et on s'est dit ok, on va faire les choses clean, on va fermer la boîte existante et on va repartir sur un nouveau produit qui va se focus uniquement sur trouver les coordonnées des gens. Et on a lancé donc Casper. Et ça a été, donc pendant 3 mois, on n'existait plus sur le marché. Je me rappelle encore, on a eu des emails d'anciens utilisateurs qui nous disaient, mais quand est-ce que vous revenez? C'était top votre outil, vraiment. Et donc, ça nous encourageait à aller dans cette direction. Et je pense qu'on a fait le bon choix.
C'est assez exceptionnel ce que tu viens de dire. Donc, j'aimerais revenir un peu à ça. Le produit à l'époque, bon, clairement, il y a eu une première itération, une deuxième itération, une troisième itération. Maintenant, on a un produit qui est beaucoup plus mature au moment où on se parle. Mais il était 100% gratuit. Est-ce que c'était déjà dans le plan de match de se dire on va créer une traction autour du produit, il va être 100% gratuit et ultimement, on va trouver une manière de le monétiser? Est-ce que c'était par hasard? Comment ça s'est déroulé un petit peu cette commercialisation-là?
Alors, c'est pile la transition, en fait. C'est que tout au début, on l'a même pas mis payant, cet outil, quand on a fait le test, puisque il fallait encore faire du développement. On avait un produit, il était gratuit, on pouvait le mettre sur les stores, mais faire du paiement, avoir des abonnements, se connecter à des API Stripe pour faire du récurrent, pas du récurrent, tout ça, ça demandait trop de développement. On savait même pas si le produit allait fonctionner, s'il allait avoir une traction. Donc, on l'a sorti comme ça, gratuit, et on a vu que ça fonctionnait. On a dit, OK, on stoppe tout, on attend. On fait les choses propres, on améliore le produit. Donc pendant les 3 mois de transition, on a fait que travailler avec mon associé pour justement avoir des données qui étaient meilleures, donc c'est améliorer sur la data qu'on avait, mais à la fois trouver un produit qui était simple, facile d'utilisation et intégrer le paiement. On voulait quand même gagner un peu d'argent. On s'est dit, on a de l'attraction. Il suffit qu'il y en ait quelques-uns qui payent, ça va nous motiver. On n'avait jamais eu 1 euro de revenu sur l'ancienne boîte. Donc là, c'était un moyen de nous motiver. Et donc, on a sorti le jour où Casper a été créé. Donc c'était, je pense, 18 novembre 2018 de mémoire, ou 17 novembre. Je crois que 10 jours après, notre produit est sorti live sur le Google Store, le Chrome Store de Google. et avec le paiement intégré. Donc le 27 novembre, on est sorti, on a pu avoir nos premiers inscrits et je crois que les paiements, le premier paiement qu'on a eu, pour nous c'était champagne. On gagnait 30 euros, mais c'était champagne. C'était début décembre et donc on a eu pas mal d'inscrits comme ça et au fur et à mesure, on a pu grandir et avoir nos premiers revenus. Mais la première itération, c'était vraiment sans paiement parce qu'on n'avait pas le temps. Et on voulait voir si ça fonctionnait. Après, on a sorti le paiement, mais notre plugin, si on a des screenshots du plugin de l'époque, il était affreux. Le design, on n'a payé aucun designer. C'était nous à améliorer, on a bidouillé pour avoir. Je crois qu'on avait payé un designer 1000 euros pour avoir une page de site internet standard. Et avec ces écrans-là, on a essayé de créer un plugin, mais sans payer les designs du plugin. Enfin, on se débrouillait pour dépenser le moins d'argent et avoir un produit qui puisse nous générer un peu d'argent. Et voilà, comment le tout début de vie, les deux premiers mois de casse-faire.
J'aimerais que tu continues un petit peu sur cette évolution-là parce que c'est assez intéressant ce que tu nous dis. Les premiers revenus se sont déroulés, donc vous commencez à vous rendre compte que finalement, ça va être plus qu'un hobby. Ça peut devenir une entreprise, ça peut devenir une organisation qui va créer des salaires, qui va faire en sorte que sensiblement, l'organisation va pouvoir voler de ses propres ailes. J'avais une discussion récemment avec quelqu'un qui va venir sur le podcast bientôt. C'est un des fondateurs de G-Soft, une grosse entreprise technologique qui ont deux grosses entreprises qui sont ShareGate et Office Vibe. Et il me disait que pour la croissance de ces deux entreprises technologiques qui ont utilisé quelque chose qui est très populaire, c'est un buzzword qui est très populaire présentement dans le volet technologique qui est product led to growth. Donc le produit, lui, dans la manière qu'il est construit, amène une certaine forme de croissance. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui se déroule avec Casper aussi. Peux-tu nous dire comment que par la suite, vous avez continué à aller chercher des clients un après l'autre et encore une fois avec une petite équipe, je crois bien.
On était à l'époque, c'est même pas une petite équipe, il y avait mon cofondateur Omar et moi, on était les deux dessus. Et je me rappelle d'une phrase de mon cousin qui m'a dit un jour, il m'a dit: Alan, lève ta tête de ton guidon, tu dois aller signer des contrats et faire de la prospection commerciale pour faire connaître à la fois Casper à des sociétés, des petites plus ou moins grosses sociétés, et aller chercher du revenu. Et arrête d'avoir la tête dans le guidon. Mais vraiment, bouge-toi les fesses, parce que si quelqu'un va pas ramener d'argent, enfin, c'est pas Omar qui va ramener l'argent, c'est forcément toi. C'est toi qui dois être le profil business. Et moi, je n'avais aucune skills en vente. Donc, on avait un produit qui était capable de ramener de l'argent. On a eu quelques paiements. En général, les petits early adopteurs, ils vont tester quelque chose. Mais d'avoir juste 40, 50 euros par mois ou avoir sans rien demander un abonnement qui tombe et qui va nous doubler notre chiffre d'affaires, parce qu'ils payent 100 euros par mois, mais ça nous double notre chiffre d'affaires à l'époque. Bah, on a le sourire, on est content et on se dit, ah, bah, cette semaine, on a fait un abonnement. On a fait un abonnement tout seul qui est tombé tout seul. Donc, c'était vraiment quelque chose où vraiment chaque sou, chaque euro comptait à l'époque. Et j'ai commencé donc moi à prospecter, à envoyer des emails à des sociétés ou à des anciens clients, enfin anciens utilisateurs de ma première boîte, en disant voilà, il y a un nouveau produit qui est sorti, c'est comme ça, allez le tester, vous avez un free trial qui est gratuit, allez-y. Et moi, ce que j'avais peur, et en tant que fondateur, je pense que quand de jeunes lancent sa boîte, on a toujours peur de faire un go-to-market et se dire mon produit il est pas assez mature. Non, j'ai besoin encore de le développer. Ah non, il y a des bugs. Et on va se prendre des utilisateurs qui disent c'est nul. Ce produit, c'est quoi la différence avec un autre produit? Et on a l'impression que la concurrence, c'est quelque chose de diabolique. On veut pas en entendre parler. On est un peu même, ça nous tient à cœur quand on dit, c'est votre produit, c'est le même qu'un tel. Pourquoi j'irai chez vous? Ça nous fait mal quand on a développé quelque chose. Donc, tout ça, c'est le début. Et vraiment, on a laissé le produit et on a écouté nos utilisateurs en disant, OK, ça, j'ai compris que c'était un problème. Ça, j'ai compris que c'était pas clair et on avait la capacité d'itérer très rapidement. Et en février, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout au début, on a commencé donc à générer, je pense que les deux premiers mois, on a dû faire 2000 euros maximum de revenus. Mais on venait de lancer le produit, mais on avait des utilisateurs gratuits et de plus en plus. Et c'est à ce moment-là qu'on a levé un peu de fonds en Friends and Family qui nous donnait juste, en fait, de la visibilité. Et ça nous a donné plus de la confiance en nous que un réel besoin de fonds, quoi. Puisqu'on a été très vite, on s'est pas payé, on dépensait pas en marketing, on avait très peu de coûts de serveur, et donc 6 mois, 8 mois après notre création, on était à l'équilibre, presque à l'équilibre. Je crois que Pour être exact, je pense que c'est 10 mois après notre création qu'on était à l'équilibre, en minimisant le maximum de coûts, hein, évidemment. Mais c'était déjà à l'équilibre. Donc, en termes de fonds et de besoins en fonds, on a payé un seul salarié en février qui nous a rejoint. On a payé un seul salarié. Nous, on se payait pas trop. Et quand on a commencé à augmenter en chiffres, on a commencé à se verser nos premiers salaires. Et on avait un salaire très correct au bout de 10 mois. En étant à l'équilibre, on avait un salaire très correct. Très correct, mon associé et moi, plus notre premier salarié. Donc ça, c'était vraiment le début de vie. Et pour revenir, c'est que c'est le produit. Enfin, on a laissé le produit vivre et on a vraiment écouté nos utilisateurs. Et on n'a pas eu une frustration en disant « Ok, notre produit, il est mieux, mais c'est parce que vous comprenez pas. » Non, chaque incompréhension, on essayait de le transformer en une amélioration de produit. Une amélioration de produit et on écoutait l'utilisateur. Et vraiment, il y en a qui nous ont fait confiance tout au début. Des abonnements qui, d'ailleurs, sont toujours clients aujourd'hui à des tarifs qui défient toute concurrence, que j'ai jamais bougé des tarifs, mais et qui nous ont fait confiance tout au début de Casper et qu'on a encore en client. Et eux pourront témoigner de l'évolution entre le premier produit et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et on les a toujours écoutés, ils nous ont toujours fait confiance. Donc franchement, voilà, c'est comme ça en fait qu'on tout le début de Casper s'est mis, c'est par écoute du client. Écoute du client, j'étais beaucoup sur le chat, j'allais prospecter, j'avais des retours sur non, votre produit, bon, il était vraiment pas cher à l'époque, mais il est pas assez performant parce que vous avez pas de données sur ce typologie de métier, et donc on allait essayer d'intégrer de nouvelles sources. Il y avait des gens qui ne comprenaient pas certaines fonctionnalités qu'on avait. On a toujours essayé d'être le plus transparent, le plus clair avec nos utilisateurs.
Puis bon, là t'es très humble dans ce que tu nous dis aujourd'hui. Tu nous parles des débuts, pas beaucoup nécessairement de revenus, quelques employés. Mais là, l'entreprise, elle a évolué, elle a changé. Donc là, aujourd'hui, on parle, comme j'ai dit un petit peu en intro de podcast, près de 200 000 euros de revenus récurrents par mois. L'entreprise a grandi très rapidement. Là, j'aimerais que tu nous parles de cette croissance-là. Donc, t'es allé prospecter, t'as cherché des clients. Tu nous parlais qu'au départ, il y avait 200 inscriptions par jour à ton produit qui est gratuit. Comment ça s'est déroulé, cette émulation-là, par la suite?
Là, ça a été un peu moins parce qu'on était sur un free trial et non pas un produit qui était complètement gratuit. Donc, le nombre d'inscrits, même si tout au début, on a essayé de le relancer avec des petites vidéos LinkedIn, il y a eu une forte traction, peut-être 600, 700 inscrits le premier jour, peut-être 200, 300 le deuxième, mais après ça s'est estompé, la vague c'est vraiment baissé. On était à, il me semble, hein, 10, 12 inscrits, on payait 0 euro en marketing, donc c'était que du bouche à oreille. Les gens qui venaient étaient que sur du bouche à oreille, et donc on se devait déjà d'avoir une satisfaction utilisateur qui était vraiment très haute. Pour qu'il y ait un bouche à oreille, c'était même pas via du référal en interne, c'était vraiment... ils parlaient à leurs collègues, nous on analysait, moi j'analysais les noms de domaines ou les boîtes, le nom des entreprises qui s'inscrivaient, et je me disais, ah bah lui il en a parlé à son collègue, là il y a une nouvelle boîte complètement qui nous connaît pas, je ne savais même pas comment nous trouver. Donc moi mon but c'était de comprendre pourquoi, et j'ai compris que le bouche à oreille dans ce genre d'outil est vraiment très important, puisqu'on va être référencé dans des channels Slack en train de parler, ah vous avez vu le nouvel outil, ça peut être pas mal, essayez-le. Et donc voilà, on avait 10-12 inscriptions par jour au début, sans un euro de marketing. Et moi, ça me permettait non plus d'aller faire de la prospection, mais d'aller m'occuper déjà de ces inscrits-là, d'aller leur faire une formation, leur partager mon écran, leur montrer comment ça fonctionne, essayer de connecter et de comprendre leurs besoins. Pour la petite anecdote, étant donné que j'ai jamais été sales de ma vie, c'est très difficile, et je me rappelle les débuts, si j'étais en stress d'appeler un client et de faire un call avec lui, de quoi je vais lui parler, mais quelles questions il va me poser, etc. C'était toute une organisation. Je me préparais 20 minutes avant un call, alors qu'aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Et donc ça, c'était vraiment, voilà, le début, et on a grandi, de façon un peu, je dirais, organique, parce que j'allais contacter les inscrits, aller leur faire des démos. Et on a commencé comme ça à générer un peu plus de revenus. Et pour décembre 2019, soit un an après l'inscription, on faisait 22-25 000 euros de revenus par mois, ce qui était pas mal.
De où viennent ces clients-là? Parce que là,
ces clients, ils sont venus donc par des inscriptions, et moi, je faisais toute la journée J'essayais d'avoir un maximum, donc de splitter mes journées en disant, bah aujourd'hui, tous les matins, je vais contacter les inscrits. J'analysais leur utilisation. Est-ce que lui avait utilisé des crédits sur Casper? Il vient de les utiliser, donc il est sur mon outil en ce moment même. Bah, je vais lui envoyer un email. Des fois, les gens trouvaient ça creepy parce que j'ai envoyé un email 10 minutes après que le mec ait utilisé Casper. Il lui dit, ah, mais merci d'avoir terminé vos crédits. Voulez-vous faire un call, etc. Donc, ils trouvaient ça un peu creepy, mais ça me permettait d'avoir de l'accroche. Je savais qu'ils étaient disponibles, en tout cas, pour avoir un call ou qu'ils avaient un certain besoin et que Casper avait pu les aider. Donc, j'attrapais comme ça des calls au fur et à mesure et ça a grandi. Et on devait faire 90% de nos abonnements, qui étaient à l'époque, ça variait entre 50 € par mois et 300 € par mois, avec 80% de nos abonnements qui étaient à 50 € par mois, donc le plus bas. Mais j'étais déjà content quand j'en signais un et on est passé de 2 abonnements par semaine à un abonnement tous les 2 jours, à un abonnement par jour. Et quand on a vu les abonnements par jour, j'étais là, j'étais vraiment vraiment très content. Et ça devait être en décembre. En décembre, on devait faire 1 ou 2 abonnements par jour maximum. Quand aujourd'hui, on doit en faire 15.
À quoi ressemble beaucoup de marketing à ce moment-là? Donc, toi, tu fais un peu de développement. Ça ressemble à quoi tout ça?
Alors, en décembre 2019, on avait fait 0 € de marketing payant, donc style Google Ads ou du Facebook, etc. Par contre, on avait une autre stratégie qui nous a rapporté de l'argent, c'était les prémices des influenceurs, un peu LinkedIn, pas les prémices, mais c'était peu démocratisé comme ça l'est aujourd'hui. Et donc, on prenait des influenceurs dans le secteur, et c'est d'ailleurs Jérémy Bendayan qui nous a donné l'idée en faisant sa première vidéo, qui nous avait rapporté, je vous ai dit, sur le premier produit, 1500 inscrits, et sur le deuxième, sur Casper, 700 inscrits et 300 ou 400 le deuxième jour. Donc, c'était vraiment pas mal. Et c'était par un post LinkedIn, une vidéo qui expliquait. Donc, on a compris la puissance d'influence sur les réseaux comme LinkedIn, et donc, on a cibler des influenceurs. Je me rappelle des influenceurs qui aujourd'hui prennent des centaines d'euros, voire milliers d'euros pour un poste, qu'on a payé 100 €, 150 € à l'époque. Pour faire, ils étaient spécialisés dans des outils SaaS et ils partageaient leur communauté. Et on avait une stratégie de dire, on en veut au moins un par mois des postes de nouvelles personnes pour nous générer de l'inscrit, pour qu'il y ait du référal. Et c'est comme ça, vraiment, on a grandi en nombre d'utilisateurs et nombre d'abonnements.
Intéressant
Voilà.
ce que tu dis.
Jusqu'à décembre 2019 et à partir de janvier, je crois, 2020, on a commencé l'AdWords et à se faire référencer avec une stratégie où on se faisait référencer sur les mots-clés de concurrents. Donc, on n'était pas très propre à l'époque, bon, peut-être un peu avant décembre, mais pas très propre à l'époque. C'est-à-dire on n'avait rien à perdre. On voulait gratter des parts de marché un peu partout. Donc, on achetait les mots-clés des concurrents et uniquement c'est des concurrents. Et on mettait Casper meilleur qu'eux. Ça nous générait d'inscrits, c'était 95% du temps, c'était faux, cette phrase, mais ça nous permettait de générer de l'inscrit et pour les 5% où on avait raison, de nous générer des abonnements. Donc c'est comme ça qu'on a grandi au début et on a commencé à prendre donc une deuxième salariée en septembre 2019. Donc voilà, c'était la quatrième chez Casper, on était quatre. Et donc on a pu mettre en place un peu des petites stratégies d'influenceurs avec elle. C'était directrice, enfin, responsable marketing à l'époque, la seule en marketing, donc elle était responsable. Et on a créé voilà des petites stratégies, que ce soit sur des mots-clés Google, mais aussi sur une stratégie d'influenceur. Ce qui a bien fonctionné au final.
On regarde les chiffres, quasiment aucun euro d'investi en publicité avant décembre 2019. Par la suite, un peu d'investissement. Puis clairement, on peut le dire à ce moment-là, vous commencez à voir ce qu'on peut appeler de la traction. Donc, l'entreprise est capable de grandir. Vous avez des inscrits qui arrivent à quasiment tous les jours. Tu en as plusieurs dizaines que tu parles maintenant qui vont s'inscrire à votre plateforme à tous les jours. C'est quoi les discussions que toi et ton associé avez à ce moment-là par rapport au financement externe? Je l'ai dit un petit peu plus tôt, on en a parlé toi et moi dans des entretiens hors podcast où la majeure partie des entreprises technologiques dans ton secteur, du moment qu'ils ont cette traction-là, ils vont en ronde de financement, lèvent beaucoup d'argent et tentent de prendre des parts de marché très rapides. Toi, je le sais, tu le dis, vous avez eu un peu de financement, mais c'était pas tellement dans cette optique-là, c'était uniquement pour faire en sorte que l'entreprise puisse vivre un peu au départ. Vous continuez à grandir de manière organique. Vous avez des revenus récurrents. Vous êtes une entreprise technologique. Bref, vous avez tout pour être attractif pour des investisseurs externes, mais vous l'avez pas fait, ou du moins vous l'avez pas fait à la même échelle de grandeur que d'autres entreprises dans votre secteur ont pu le faire. Pour quelle raison? Je serais curieux de t'entendre là-dessus.
Alors, honnêtement, j'avais moi une seule chose en tête et c'était la première phrase. Ben, je reviens sur celle de mon cousin qui est un très bon entrepreneur et que je respecte énormément, qui m'a dit, va vendre ton produit. Tu dois être focus non pas sur l'argent que tu vas lever, mais sur l'argent que tu es capable de gagner. Il n'y a pas plus grande satisfaction de gagner son argent et pas de l'obtenir en subvention ou en levée de fonds, mais d'aller le chercher et d'aller grandir comme ça. Donc vraiment, à partir de ce moment-là, quand il m'a dit ça, donc c'était au début de Casper, j'avais une seule chose en tête, c'est comment gagner et gagner plus d'argent. On a juste pour info, on a amélioré le produit deux fois. Donc on avait une première version, on a fait deux améliorations sur l'année 2019. On a fait deux améliorations de produit. Donc on a changé complètement en prenant des vrais designers et une meilleure interface sur l'année 2019. On a amélioré pas mal de sources. On a changé deux fois ou trois fois notre pricing en un an et demi. En un an et demi, on a augmenté trois fois les prix. Et ça, si ça a été un tournant chez nous, c'était que on avait un prix extrêmement bas. Parce qu'on s'est dit, bah, et en ayant un prix extrêmement bas, on va attirer des parts de marché, on va prendre des parts de marché. Mais faut savoir que c'est pas totalement vrai. Et moi, je n'ai jamais fait de marketing de ma vie, c'était des maths. Et ben, en mettant nos prix plus haut, on a été comparé par rapport aux autres outils pour notre juste valeur. Et ça a été vraiment important et un tournant. On a plus gagné d'argent et on a eu plus de clients. On n'a pas eu une perte de clients, mais au contraire, les gens nous ont dit, ah, mais au final, le crédit vaut 30 centimes chez Casper, alors que chez ce concurrent-là qui est très fort, il en vaut 45, ça mérite de tester Casper. Alors qu'avant, quand on valait 10 centimes ou 5 centimes le crédit, on nous comparait même pas. Donc, ils n'allaient même pas utiliser notre produit ou le tester pour sa juste valeur. Et donc, en augmentant les prix et en changeant notre pricing, on a gagné en clients et donc gagné en revenus. Et c'est pour ça qu'en décembre, c'était en décembre un gros changement de pricing, on a bien augmenté nos revenus et après, on a eu une croissance vraiment pas exponentielle, ce que j'espère, mais une forte croissance sur l'année 2020.
Ils disent, hein, pricing is branding. Donc, plus souvent qu'autrement, on peut penser que c'est intuitif de penser qu'être moins cher va attirer plus de clients, mais en pratique, c'est assez faux. Plus souvent qu'autrement, les gens aiment les produits qui sont un petit peu plus dispendieux. Mais je reviens tout de même à ma question. Cette croissance-là a lieu et en aucun temps, vous dites, bon, là, c'est le temps de faire 10 fois l'entreprise, 10 fois les revenus. On va chercher 1 million en financement. On va chercher 10 millions en financement. On engage 10 commerciaux. On va prendre les parts de marché. Ça vous est pas venu en tête, ça?
Honnêtement, ça nous a peut-être traversé l'esprit et j'aurais même pas à savoir, mais je pense que le seul truc sur quoi j'étais focus, c'était il faut doubler notre chiffre d'affaires mensuel. Il faut doubler notre chiffre d'affaires mensuel. Et je le mettais à 8 mois quand au final, on n'en mettait plus que 6 pour le doubler. Mais j'étais vraiment focus là-dessus et non pas sur de la levée de fonds. J'étais pas à la course à la levée de fonds. Et aussi, il y a deux typologies, je pense, d'entrepreneurs. Il y a des gens qui veulent pas avoir de soucis dans leur vie et se dormir sur leurs deux oreilles. Et d'autres qui veulent stresser et faire donc la course à la levée de fonds. Et je connais beaucoup d'entrepreneurs autour de moi qui ont levé et qui sont dans cette dynamique et à qui ça va très bien. Mais moi, je préférais grandir de façon organique, pouvoir dormir sur mes deux oreilles et pas avoir ce stress et de dire, bah, on m'a donné 1 million, je dois le brûler, je dois embaucher, je dois me précipiter pour faire des choses. Non, moi, j'avais pas besoin de me précipiter. Je testais quelque chose, ça marche pas, je teste un autre. Et aussi, la force, c'est de faire de bons recrutements et de prendre des fois le temps de bien recruter. Et ça a été vraiment aussi, ça a été vraiment important parce que si on lève des fonds, on grandit vite, on veut embaucher et donc il peut y avoir plein de process. Mais nous, on avait une certaine valeur sur l'entreprise et d'avoir des employés comme Casper a aujourd'hui, franchement, ça n'a pas de valeur, pas de prix. Donc, je suis vraiment très content de nos recrutements.
Parlons-en un peu du volet recrutement, du volet ressources humaines. Donc, à l'épisode 94 de Hypercroissance, j'avais une entrevue assez fascinante avec un homme d'affaires qui se nomme Sébastien Fizet, qui nous parlait, donc lui, juste pour te donner un petit peu de contexte, Alan, il est dans le volet de l'alimentaire, donc il sort des produits dans les supermarchés, il en a sorti plusieurs, et à chaque fois qu'il sort des produits, il en vend des centaines de milliers, et il fait tout ça avec une seule employée. Et là, on avait une discussion autour de ça, je trouvais ça assez fascinant. J'aimerais t'entendre là-dessus. Tu l'as dit au départ de l'organisation, vous étiez une toute petite équipe, vous étiez 2 cofondateurs. Tranquillement, vous avez mis plus de personnes à l'équipe. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que tu crois qu'une entreprise comme Casper peut grandir sans nécessairement avoir des centaines et des centaines d'employés? Quelle est ta vision également peut-être sur le travail à la maison? Est-ce que vous avez des bureaux? Est-ce que vous êtes en ce qu'on pourrait appeler en remote work? Parle-nous un petit peu là, du volet ressources humaines chez Casper.
Alors, nous, voilà, de fin 2019, on était 4, dont une alternante qui était en marketing, qui était en 4e année donc d'école, il lui restait encore 2 ans. Et on a fait donc le deuxième CDI au final de Casper, un sales début de 2020. Et donc on était cinq et on est resté à cinq personnes pendant, je dirais, près d'un an. Et on est, moi, peut-être 7, 8 mois. Et on est passé de 25 000 euros, ou peut-être 30 000 euros en janvier 2020, à, en décembre 2020, nous étions à 70 000 ou 80 000 euros. Donc on est resté avec le même nombre d'employés. Et c'est qu'à partir de novembre 2020 où on a embauché deux nouvelles personnes, donc un country manager UK et Spain qui est chez nous et une account manager pour gérer donc au final nos clients. Et c'est comme ça qu'on a grandi. Et après en février 2021, on a eu trois nouvelles personnes supplémentaires, donc deux développeurs et une en marketing. Et là, on a encore deux personnes qui nous ont rejoints, donc une là et une qui arrive, qui nous ont rejoints. Donc on grandit au fur et à mesure, mais pendant longtemps, et on a augmenté notre chiffre d'affaires sans augmenter notre taille d'équipe. Et
Wow.
pour petite info, juste aujourd'hui notre EBITDA, il est à plus de 50%. Donc alors que l'année dernière, en ayant le même chiffre d'affaires que sur nos six premiers mois, on était sur un EBITDA à 20%, ce qui fait qu'on a grandi sans augmenter vraiment nos ressources. On a plus investi l'année dernière sur du capital humain et sur du marketing. Et aujourd'hui, on ne dépense pas plus que ça et on va récolter les fruits. Et en début d'année, pour revenir, en début d'année, donc en janvier 2021, on faisait 80 000 euros de chiffre d'affaires. Bah voilà, au mois de septembre, je pense qu'on va dépasser la barre des 200 000 euros. Donc on grandit vite sans augmenter vraiment le nombre de personnes et en essayant de garder cette proximité, et je tiens à le dire, avec nos clients. D'avoir un support et un chat et une satisfaction client, toujours la mesurer, toujours être au top, ne pas négliger ses clients et dire, OK, une fois qu'ils ont payé, je m'en occupe plus. Moi, j'avais peur tout au début quand je vendais un abonnement mensuel ou annuel de les contacter au mois par mois pour faire un suivi. Je me dis, ah, si je les contacte, ils vont se désabonner ou des choses comme ça. Mais au final, non, notre clé, ça a été d'être toujours proche du client, d'écouter ses besoins, d'être très réactif et d'avoir un très bon support. Et aujourd'hui, si vous envoyez un message à Casper, je vous assure qu'en moins de 4 minutes, vous avez une réponse sur le chat, ou vous pouvez même avoir un coup de téléphone d'un de nos commerciaux. Donc vraiment, c'est voilà, il faut être proche, et c'est très dur une fois qu'un client part. Donc nous, on a un très bon taux de churn, on a très peu de churn, donc on est content et on grandit quand même assez rapidement, tout en gardant le même nombre d'employés.
C'est un petit peu l'antithèse des entreprises SaaS, des entreprises technologiques qui, du moment que le chiffre d'affaires grandit, ben on s'en va quadrupler le nombre d'employés. On travaille à EBITDA négatif. Loin de moi l'idée de dire que l'un des modèles est meilleur que l'autre, mais le tien clairement a l'air de fonctionner pour vous. Vous avez l'air d'être bien là-dedans. C'est assez formidable de voir que tu peux bâtir, construire et continuer à croître une entreprise technologique de manière profitable et profitable de manière très élevée également, là. 50% de marge de profit net, c'est des chiffres qui sont impressionnants.
Non, non, mais c'est exactement ça. Moi, je pense qu'on est capable de grandir sans forcément aller chercher plus d'argent en augmentant nos dépenses, mais toujours en essayant de maîtriser, travailler à EBITDA positif. Je pense que c'est vraiment, enfin, c'est dormir sur ses deux oreilles. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure.
Exact.
Il y en a d'autres qui vont faire la course à aller chercher de l'argent et pouvoir aller chercher avec des chiffres. Enfin, je pense qu'on peut aller chercher aujourd'hui plusieurs millions, mais ça me ferait plus stresser et travailler dans un stress que aujourd'hui j'ai pas besoin. On peut augmenter nos coûts et grandir et faire de l'embauche au fur et à mesure sans pour autant embaucher 10 personnes par mois, quoi.
Ben c'est parfait. Je pense que c'est un très bon modèle à prendre. Et parle-nous un petit peu avant que je te pose des questions un petit peu plus personnelles, Alan, parle-nous un petit peu de l'avenir de l'entreprise. Qu'est-ce qui vous attend dans les prochains mois? Qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines années?
Eh ben, toujours grandir et on va essayer. J'espère. Enfin, mon objectif, moi, c'est de doubler mon MRR tous les 6 mois. D'essayer
OK.
aujourd'hui de doubler mon MRR tous les 6 mois. Je pense que c'est pas mal et pourquoi pas. Enfin, on est en train d'ouvrir d'autres pays, donc notamment les États-Unis, qui est un marché énorme et jusqu'à présent on s'est jamais lancé dessus. On a fait UK, Spain, un peu les quelques pays d'Europe, mais on est vraiment concentré quand même à 85%, 90% en France. Même si on a même à Montréal un revendeur avec qui je passe le bonjour s'il m'écoute, groupe optimisation. Mais voilà, ça reste très peu et on a pour but de lancer donc d'autres pays et d'augmenter notre chiffre d'affaires à l'étranger.
Parfait. Puis je terminerai, Alan, des petites questions personnelles. Est-ce que tu es un amateur de lecture d'affaires?
Alors, pas tant que ça, mais j'aime bien un site que j'utilise beaucoup quand j'ai la moindre question, qui s'appelle SaaSTR, pour ceux qui connaissent pas. Vraiment, c'est des articles faits par, en général, des entrepreneurs ou des head-off de grosses boîtes ou grosses startups qu'on connaît, qui écrit des articles sur, par exemple, comment, j'avais une question il y a pas si longtemps sur comment améliorer, enfin, comment diminuer le taux de churn chez Casper pour en avoir un vraiment, vraiment très bas. Et il y a pas mal d'étapes, c'est vraiment très bien construit. J'adore vraiment tous ces articles et ça nous aide. Enfin, je pense que chacun d'entre nous chez Casper, dès qu'il y a une question, on va aller sur ce genre de site pour avoir la réponse et je conseille vraiment à tous les entrepreneurs.
Je vais mettre sûrement le lien dans les notes de l'épisode. Je connaissais pas le site, donc je vais aller.
Vraiment, vraiment super.
Podcast, en écoutes-tu un peu?
Ouais, des podcasts français. Donc, il y a deux types. Il y en a un, c'est sur l'avance, c'est sur du gros, c'est la galère. J'aime bien. C'est des entreprises entre des podcasts entrepreneuriales. Donc, des gens qui ont bien réussi aujourd'hui, mais qui ont galéré par le passé. Fait par Start the Fuck Up, la galère, qui est top. Il y a aussi, je crois, Grossmaker de Gabriel Gourovitch. Que j'aime bien aussi. Et sinon, autre environnement, c'est Cryptost. Donc, tout ce qui est podcast autour de la crypto, crypto-monnaie, que j'écoute aussi. Mais voilà. Et ça me permet d'avoir soit des avis et des. C'est toujours très sympa d'écouter ça, puisque ça nous donne des idées.
Bien sûr.
Auxquelles on n'avait pas pensé. Et sur crypto, c'est plus par hobby que j'écoute ça.
Merveilleux. Puis je terminerai. Est-ce que tu as une routine avant, pendant et après le travail?
Avant, pendant, après le travail. Alors, en ce qui concerne le travail, nous, on a un truc qui est tout le temps mis en place. C'est à 10h, daily call, toute l'équipe. On fait un call. Des fois, ça peut durer un peu longtemps, mais ça nous permet déjà de catch up avec tout le monde, de même parler de choses qui sont en dehors du travail. Et ça nous fait du bien. Et après, la routine, c'est dans ma voiture ou le soir, quand je rentre dans les embouteillages à Paris, c'est une horreur. Donc, hop là, j'appelle un ami à moi et on parle de tout et de rien, de projets. Et il se reconnaîtra quand il regardera ce podcast.
Bon, ben merveilleux. Parfait. Ouais,
nickel.
Puis Alan, comment qu'on peut en apprendre plus sur Casper? Donc, j'imagine votre site web, mais toi, personnellement, est-ce que t'es plus facile à rejoindre sur un média social particulier? Comment qu'on pourrait vous rejoindre?
Ah, sur LinkedIn, on vient de créer encore une nouvelle page. LinkedIn, ça faisait longtemps qu'on n'en avait plus, donc allez la checker, il y a pas mal d'articles qui peuvent être intéressants. Et si vous voulez me contacter directement, utiliser Casper, je pense pas que vous aurez de soucis à trouver mon email ou mon numéro pour certains. Mais sinon, la façon la plus accessible, c'est de nous envoyer sur le chat. Vous allez directement sur Casper, vous pouvez nous parler, discuter avec nous et vraiment en 4 minutes, vous avez un call avec un de nos commerciaux ou avec moi-même quand ils sont tous indisponibles ou quand c'est en plein mois d'août et qu'il y a que les vrais qui restent. Vous pouvez m'avoir au téléphone.
Parfait. Ouais. Ben Alan, merci énormément d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. Je voulais vraiment avoir une discussion avec toi parce que, comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt, j'ai reçu beaucoup d'entrepreneurs qui avaient une vision très claire de comment développer une entreprise technologique. Et c'est la première fois que je parle avec quelqu'un aujourd'hui qui a pris le chemin totalement différent et qui a beaucoup de succès. Donc, félicitations encore une fois. Je pense que c'est assez exceptionnel ce que toi et ton équipe avaient été capables de faire. Donc, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous.
Merci.
Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. J'espère que l'entretien avec Alan vous aura permis de voir qu'il est possible de faire de la croissance accélérée avec une entreprise technologique tout en restant pleinement profitable. C'est plus long et complexe, certes, mais c'est faisable. Félicitations à l'équipe de Alan pour cette belle entreprise qui continue de grandir aussi vite, mois après mois. Je termine en vous invitant à m'ajouter sur LinkedIn. J'adore discuter avec vous et plus souvent qu'autrement, vous me donnez des super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.